La dernière rubrique de notre émission nous permet d'entrer avec une grande curiosité dans les secrets de la toile. Les ressources numériques sont, comme l'a rappelé tout à l'heure Adeline, multiples et d'une grande richesse. Et en même temps, comment ne pas s'y perdre? Comment trier le bon grain de livret? La rubrique des sites du jour va nous y aider. Et c'est d'abord Anne qui va nous servir de guide. Et elle nous emmène dans un lieu dont le nom est déjà plein de promesses et de charme. Un site qui stimule le désir même d'apprendre. Allons Anne, conduis-nous jusqu'au grenier de Clio.
Alors le grenier de Clio, peut-être d'ailleurs les élèves d'Angélique l'ont peut-être utilisé pour leur dépliant touristique sur les enfers. Donc c'est un site qui est richement illustré, consacré aux mythologies, aux croyances religieuses, aux arts et à l'histoire des anciennes civilisations du monde entier. Alors, ils auraient très bien pu effectivement naviguer dans ce site avant d'aller naviguer dans les enfers, car ce site est totalement sécurisé, il ne présente aucune menace et il peut être utilisé donc sans problème par nos élèves. Il ne contient aucun logiciel malveillant et il n'est pas utilisé par exemple pour quelque chose qui est très à la mode à l'heure actuelle, qui est le phishing. Donc ce site nous intéresse au premier chef, en tant que professeur de lettres et moi encore plus particulièrement en tant que professeur de langues anciennes, puisqu'il présente en détail la civilisation gréco-romaine et c'est donc un bon support de recherche documentaire tant pour la mythologie et les pratiques religieuses que pour l'histoire grecque et romaine. Alors que ce soit pour la partie du site consacrée à l'art, à l'histoire ou à la mythologie, je tiens à vous signaler en plus que la navigation est très facile, puisqu'on entre par une page d'accueil qui propose un index qui va ensuite nous donner accès par lien hypertexte au sujet précis de notre recherche ou de celle de nos élèves. Alors je vais évoquer plus précisément la partie mythologique du site parce que c'est celle quand même que l'on utilise peut-être le plus souvent. Donc il faut bien voir, hein, je tiens à rappeler que les Romains ayant adopté les dieux grecs et leurs légendes, déjà donc ce sera la même fiche qui va servir aux deux civilisations. Donc il existe malgré tout, pour les dieux spécifiquement romains, donc des fiches spécifiques consacrées à Rome. Alors, chacune des pages concernant les dieux et les héros s'organise en trois parties, en trois colonnes. Donc la colonne étroite de gauche, elle va proposer des liens directs qui renvoient aux principales divinités. La colonne étroite de droite, elle, va donner accès directement à un lexique donc, qui permet ensuite de naviguer plus facilement dans le site. Donc vous voyez que pour les élèves, déjà, on peut leur montrer comment fonctionne ce site et il est vraiment très utile et très simple à manipuler. La colonne centrale, qui elle est la plus large, là, cette fois-ci, va présenter nos divinités, nos héros, de manière concise, claire et organisée, donc selon quatre grands thèmes. D'abord, le rôle de la divinité, ses attributs, la légende associée à sa naissance, donc sa filiation également, et enfin, les légendes qui le concernent. Donc ces fiches comportent également généralement une iconographie qui est prise parmi les œuvres antiques, mais également parmi les œuvres contemporaines, ce qui nous permet de travailler l'histoire des arts donc liée aux mythes antiques. Et puis, chaque page a à la fin une bibliographie. On trouve également sur le site des résumés de quelques grands textes classiques du monde antique et de quelques modernes qui traitent d'un sujet antique. Donc j'espère vous avoir montré qu'il s'agit pour nous d'un site indispensable pour la recherche, donc pour la nôtre déjà, mais également pour la recherche autonome des élèves en ce qui concerne mythologie et histoire gréco-romaine. Donc c'est également donc un site qui permet à un élève d'apprendre à naviguer sur un site web. On peut donc travailler à la fois sur le contenu et le prélèvement de l'information, mais également sur la méthode de recherche et de navigation.
Merci Anne, c'est vraiment un beau voyage dans le temps auquel tu nous as conviés. Angélique, tu n'es pas en reste, car tu nous as trouvé aussi un site fort intéressant et tu vas nous parler du CNRTL. Mais précisément, que se cache-t-il derrière ces cinq lettres bien mystérieuses?
Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le CNRTL, c'est-à-dire le Centre national de ressources textuelles et lexicales, est un portail très, très vaste consacré aux ressources linguistiques informatisées ainsi qu'aux outils de traitement de la langue. Il a été créé en 2005 par le CNRS et il prend appui sur les travaux et recherches de la TILF, c'est-à-dire l'analyse des traitements informatiques de la langue française. Donc ce portail met en avant immédiatement une assise scientifique qui peut paraître au premier abord très complexe parce que les pistes explorées sont très riches et très nombreuses, hein, vraiment. Alors la question que je me suis posée, c'est que faire finalement d'un tel déploiement de connaissances avec nos élèves? Est-ce que ces connaissances sont vraiment accessibles pour eux? Pour nous, en tant que littéraires, c'est sûr, on est tout de suite attiré par le plaisir d'accéder très facilement à des données rares et précieuses. Par exemple, je citerai le corpus Frantext, où sont réunis 500 textes du XVIIIe siècle au XXe siècle, et dont toutes les données textuelles sont traitées informatiquement. Nous pouvons également avoir accès à 12 dictionnaires anciens, vraiment fabuleux, et 4 modernes. Alors, afin de vous donner envie d'aller naviguer dans l'ensemble de ces pages, mais surtout d'en exploiter la pertinence en cours, j'ai choisi de détailler une exploitation possible de l'onglet Portail lexical. Donc, j'ouvre cet onglet et on me propose de nouvelles entrées. Si je vais dans la première entrée, dans Morphologie, j'entre la forme lexicale que je souhaite analyser. Donc, je vais prendre le terme maison. C'est un terme trop facilement employé par mes élèves dans la description, et je voudrais les sensibiliser à la richesse du vocabulaire de la langue française. L'onglet lexicographie fait alors apparaître une page impressionnante de définition. Et il ne s'agit que celle du TLFI. Le recours à 7 autres dictionnaires est possible à partir de la même page. Deux réactions chez mes élèves. Vraiment un très très profond étonnement face à la longueur de la page. Comment un mot si simple, le mot maison, peut prêter à autant de précisions lexicales. Deuxième réaction, comment est-ce qu'ils vont faire pour tout lire? Alors là-dessus, je peux répondre à leurs questions. Je vous en reparlerai plus tard en vous parlant des fonctionnalités du TLFI. Donc je poursuis mon exploration. Cette fois-ci, je clique sur étymologie. Et de même que précédemment, l'histoire du mot est vraiment foisonnante. Si je passe sur les synonymes, on me propose pour maison 93 termes recensés et classés selon leur pertinence. Et là, vraiment, pour les élèves, c'est très très intéressant parce que on peut relever différents termes, gîte, baraque, pénate, bâtisse et galta, cher à Victor Hugo, propre à évoquer la misère sociale du XIXe siècle. Et ce mot, ils l'ont croisé récemment dans un extrait des Misérables. Alors, ils poursuivent sur les antonymes, et là, stupéfaction, il y avait beaucoup de possibilités dans les synonymes et plus rien. La source s'est tarie. Alors mes élèves comprennent vite qu'un mot si objectif ne peut pas avoir de contraire. Mais si je modifie mon entrée et que je passe de maison à bouge, où je n'ai plus que 30 synonymes, et je me fais un plaisir de citer bousin, tanière, chenil, bousingot, j'avais jamais entendu jusque-là. Cette fois-ci, des synonymes apparaissent, palace et palais. Et ils peuvent comprendre que les variations sémantiques se teintent de connotations subjectives ou socioculturelles. Et c'est cela qui permet de construire l'imaginaire. Alors, je pourrais continuer avec eux mon exploration sur la proxémie, la concordance, c'est-à-dire qui recueille toutes les occurrences du mot en littérature. Mais pour moi, dans ma classe, mon objectif d'enrichissement de la langue me semble atteint. Donc je passe donc à l'exploitation d'un des 4 dictionnaires modernes, le TLFI, c'est-à-dire le trésor de la langue française informatisée. On me propose 3 entrées. Soit je tape mon mot, ou alors je peux le sélectionner dans les listes défilantes. Alors pour mes élèves de 6e, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent s'entraîner au classement alphabétique, trouver le mot dans la liste. Autre possibilité, je choisis le mot en phonétique. Par exemple, si je prends deux phonèmes, pour former un seul mot. Je prends les phonèmes L et je fais donc les. Je trouve 27 mots qui me sont proposés et ceux-ci sont tous homophones. Donc je reviens à mon article de dictionnaire auquel j'ai accès après avoir validé mon choix, les, L-A-I-T. Alors l'article est toujours immense, mes élèves ne savent absolument pas comment s'y retrouver. Et là, je peux rappeler mon cours, comment les différentes, comment un article de dictionnaire est rédigé, quelles sont les différentes parties qui le composent. Les élèves peuvent faire apparaître ces parties. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils peuvent s'entraîner à une lecture sélective de l'information. Parmi 18 éléments, 6 peuvent être surlignés de couleurs différentes. Alors je leur conseille les entrées plan de l'article, définition, code grammatical, exemple, synonyme, antonyme. La lecture des définitions est vraiment simplifiée parce qu'elle se détache visuellement du reste des exemples très fournis. Par exemple, les définitions apparaissent bien en jaune et tous les exemples vont apparaître en bleu. Et pour eux, ça fait vraiment sens. Ils peuvent aller d'une définition à l'autre, choisir celle qui leur paraît la plus pertinente. Donc en conclusion, le recours au CNRTL, à premier abord, ce recours peut paraître vraiment complexe à cause de la profusion vraiment des ressources proposées. Mais en même temps, pour présenter la richesse de la langue française qui constitue aussi notre patrimoine, il faut aussi en montrer le foisonnement. Et ce site nous permet vraiment de faire cela avec les élèves.
Nous voici maintenant arrivés au terme de notre 10e rendez-vous radiophonique. Et je dois dire que ce nombre 10 m'inspire, car s'il était pour les pythagoriciens celui de l'achèvement, il représentait aussi pour eux le symbole d'une totalité en mouvement, d'une permanente créativité. Voilà un beau programme. Nous autres, autour de ce micro, nous avons voulu que cette 10e émission soit celle de notre retour pour une nouvelle année sur la web radio. Et en même temps, nous avons souhaité renouveler nos approches pour vous proposer des rubriques encore plus centrées sur vos préoccupations concrètes d'enseignants de lettres. Nous travaillons aussi à mieux nous faire connaître grâce à une nouvelle affiche arrivant dans vos établissements à l'occasion de chacun de nos rendez-vous et grâce à notre présence sur Facebook. Enfin, je vous annonce une prochaine émission exceptionnelle avec des contributeurs que vous aurez à cœur d'écouter avec une attention toute particulière puisqu'il s'agit de nos 4 IPR de lettres de l'Académie d'Orléans-Tours. En attendant le mois de février, cette émission spéciale des souris et des lettres consacrée aux langues anciennes, je vous dis à très bientôt sur la web radio.